Ce sera donc l'événement de l'entre-deux-tours, le dernier grand oral pour les trois blocs qui s'affrontent dimanche au second tour des élections législatives. Gabriel Attal, Marine Tondelier, Jordan Bardella sont ce soir face à BFM dès 20h30. Bonsoir Maxime Switek, que réservez-vous aux trois leaders à 4 jours de ce scrutin historique ?
Très simple, un choix historique. Bonsoir Yves, un choix historique, c'est comme ça qu'on a décidé d'intituler cette émission Face à BFM, où effectivement c'est un triple Face à BFM, puisque trois invités vont défiler sur ce plateau, vous l'avez dit. D'abord Gabriel Attal à 20h30, Marine Tondelier à 21h30 et Jordan Bardella tout à l'heure à 22h30. Ils auront chacun une heure pour s'expliquer à 4 jours de ce moment décisif, à 4 jours du second tour. Ce sera l'émission en public. Pour l'instant, les gradins sont vides, évidemment. Vous nous prenez en pleine répétition. Et ils auront donc une heure pour s'expliquer. C'est le principe de Face à BFM aux journalistes des rédactions de BFM et d'RMC. Tout à l'heure avec moi, Nicolas Dose, pour les questions d'économie, avec Apolline de Malherbe et également Benjamin Duhamel. Je le disais, une heure chacun, un choix historique. L'événement de l'entre-deux-tours, c'est vraiment ce soir. C'est sur BFM TV. On vous attend à partir de 20h30.
Avec grand plaisir, rendez-vous est donc pris dès 20h30 pour ce Face à BFM. Merci beaucoup Maxime. Naïla Latroussa, alors ça ne sera pas un débat ce soir, nous sommes bien d'accord, mais trois interviews successives. On sent que la tension monte dans les états-majors. Ils ne voulaient pas d'un nouveau grand débat. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ce débat a été compliqué à organiser pour la simple et bonne raison que les trois principaux participants n'avaient pas toutes la même idée sur le casting. Jordan Bardella, notamment, qui avait en tête de plutôt débattre avec un représentant de l'une des principales forces du nouveau front populaire, donc souhaitant soit un représentant de la France insoumise, soit Jean-Luc Mélenchon, avec évidemment l'idée en quelque sorte de cliver cet entre-deux-tours en disant, et c'est toute la rhétorique qui fut la sienne depuis dimanche soir, soit il y a d'un côté ce qu'il présente comme étant le chaos insoumis, soit l'ordre qu'il pourrait incarner. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, le Nouveau Front Populaire ayant convenu en revanche qu'un des débats serait incarné par l'écologiste Marine Tondelier, s'est retrouvé un petit peu pris dans des feux, dans des contre-feux, envoyer Marine Tondelier, ne pas envoyer Marine Tondelier, qui elle-même, pour le dire, a été assez brillante politiquement en faisant une façon de se mettre en avant dans cet entre-deux-tours, d'émerger comme étant celle qui incarne un leadership à gauche dans cet entre-deux-tours, celle qui, par exemple, propose aujourd'hui une coalition. Bon, pour Gabriel Attal, il y avait un petit peu moins d'enjeux, puisque d'après les sondages et les enquêtes d'opinion qui nous parviennent, le bloc qu'il représente serait plutôt troisième derrière le Rassemblement National et le Front Populaire. Donc, effectivement, on voit comment du côté du Rassemblement National et du côté de la gauche, cet enjeu du débat a été utilisé pour aussi mettre en scène le retour à un clivage droite-gauche, le retour d'un duel, en réalité, à l'Assemblée nationale et au niveau de la scène politique nationale.
Amandine Atalaya, on est à 4 jours du second tour. Qui a le plus à perdre et qui a le plus à gagner ce soir pour ce dernier grand oral sur BFM ?
C'est toujours pour le favori, entre guillemets, qui a toujours le plus d'enjeux. Jordan Bardella voit dans les sondages s'éloigner. Ce ne sont que des sondages, mais la perspective d'une majorité absolue. Et donc, il est urgent pour lui de convaincre les Français ou de convaincre, par exemple, des électeurs macronistes de ne pas voter pour la gauche, de faire peur, en tout cas, pour éviter ce que prédit, par exemple, le sondage Harris, à savoir un résultat très loin du but initial. Et puis, Jordan Bardella a aussi vu s'accumuler cette semaine des articles de presse sur les candidats baroques ou pire que baroques du Rassemblement National, cette dame qui avait fait une prise d'otage dans les années 90, etc. Oui. Bon, et donc, il a été assez peu interrogé pour le moment là-dessus, donc il va falloir qu'il s'en explique davantage. Marine Tondelier, elle, il faut qu'elle explicite un peu ce qu'est cette idée de coalition, parce que si on s'en réfère au même sondage, mathématiquement, ça ne marche pas déjà pour commencer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de personnes pour faire une majorité alternative. Donc on ne voit pas très bien ce que ça voudrait dire politiquement, non plus de travailler ensemble à droite et à gauche sur quel terrain, etc. Et puis Gabriel Attal est pour l'instant loin derrière, il met toute son énergie dans la bataille, mais ça n'est plus vraiment un enjeu de victoire pour lui à ce stade.
Alors, outre Amandine et Naïla, nous accueillons Olivier Roucan, qui est politologue, enseignant-chercheur au CERSA, Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match, et Tugdual Denis, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Tugdual, Jordan Bardella est-il celui qui joue le plus gros dans cette campagne de l'entre-deux-tours?
Oui, je crois que Amandine a totalement raison. Il peut appuyer sur trois points, selon moi, ce soir. D'une part, l'alliance que j'imagine il jugera indigne entre Jean-Luc Mélenchon et Gabriel Attal et Emmanuel Macron, en insistant lourdement sur le fait que il y a quelques jours, quelques semaines encore, la majorité présidentielle mettait quasiment un signe égal entre le Rassemblement national et la France insoumise et même le Nouveau Front populaire, disant que le désordre à l'Assemblée venait d'eux, que leur programme était immigrationniste, qu'ils jouaient sur le communautarisme, qu'ils avaient installé un antisémitisme d'atmosphère. Je pense qu'il peut aussi plus globalement insister sur une forme de déni de démocratie, c'est-à-dire que dimanche dernier, vous avez une majorité de Français, parmi les électeurs en tout cas, dans ceux qui sont exprimés, les plus nombreux ont choisi de voter pour les candidats soutenus par Jordan Bardella, et dans la minute qui a suivi, s'est organisé un système de pare-feu, de bouclier, et qui va quand même nourrir le feu déjà bien nourri de la crise de la représentativité. Je pense que c'est des arguments qui peuvent toucher et faire mouche. Et enfin, il peut peut-être aussi être créatif, ce qu'ils n'ont pas trop été, je trouve, jusque-là. C'est-à-dire que, au-delà de défendre leur projet et de critiquer leurs adversaires, qu'est-ce qu'ils proposent comme épopée supplémentaire? Est-ce que, de leur côté, ils peuvent aussi laisser entendre qu'il y aurait une coalition? Alors, ils nous parlent du gouvernement d'unité nationale, ils parlent de clin d'œil à la droite, mais est-ce qu'ils peuvent plus clairement dire avec qui ils gouverneraient demain? Quelles concessions ils sont prêts à faire? Est-ce qu'il y a un pacte de gouvernement à imaginer?
Avec qui jusqu'où?
Avec qui jusqu'où? Et pourquoi faire? C'est-à-dire que, est-ce qu'ils peuvent dire, on a un pacte de gouvernement qui est prêt, qui n'est pas exactement le projet du Rassemblement national en 2022 ou aux européennes, mais qui, étant donné les circonstances, font que nous sommes prêts à nous amender et à trouver des compromis avec des alliés.
On va largement revenir sur ces questions de coalition. Alors, je vous rappelle cette dernière enquête Harris Interactive qui donne le RN entre 190 et 220 sièges. C'est quand même une sacrée dégringolade, Naïla Latrousse, par rapport aux dernières enquêtes.
Oui, puisque dans notre dernière enquête ELAB, le Rassemblement national pouvait espérer faire plus de 300 sièges. Alors, ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'effectivement, un certain nombre de candidats se sont désistés. On est passé de 306 triangulaires, donc des configurations de second tour, à trois tours, à un peu moins d'une centaine, 91, oui. Au dernier des comptes que j'ai fait, mais il date de la mi-journée. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé changer beaucoup, puisque les candidatures ont été déposées hier. Et donc, mécaniquement, les projections des instituts se sont ajustées à cette nouvelle donne, avec un nombre de candidats Rassemblement national confrontés en duel, soit un candidat de gauche, soit à un candidat du camp d'Emmanuel Macron, soit, et c'est beaucoup plus rare, à un candidat Les Républicains. Il reste, l'a dit, quelques triangulaires dans ce que j'ai dit, mais mécaniquement, le fait de changer de configuration fait que les instituts estiment que le Rassemblement national a moins de chances de gagner dans cette configuration où il serait face à un seul candidat, c'est-à-dire où les voix ne se disperseraient pas, voire, ce qui reste à confirmer dimanche soir, les voix de celui qui se retire, qui se désiste, venaient à se reporter dans une forme de front républicain contre le Rassemblement national.
Lou Fritel, il y a 48 heures, on s'interrogerait encore sur leur capacité à obtenir une majorité absolue.
Mais je ne suis pas sûre que le Rassemblement...
C'est plié ?
Honnêtement, oui, c'est plié. Et je ne suis pas sûre que le Rassemblement national ait eu tant d'intérêt que ça à avoir une majorité absolue, dans la mesure où, si on suit le récit, le Rassemblement national est victime d'un barrage républicain, comme il a toujours été victime d'un barrage républicain, excepté en 2022. Ce qu'il joue encore, c'est 2027. Si Jordan Bardella était allé faire une cohabitation avec Emmanuel Macron, c'était risqué aussi de se brûler les ailes, de voir sans doute peut-être amender une partie de son programme dans le cadre d'une coalition avec les Républicains, par exemple, sachant qu'ils ont quand même construit leur image sur ce parti du peuple contre les élites, très populaire. Aller vers les Républicains, ça voulait dire aller vers quelque chose d'un peu plus libéral, d'un peu plus élitaire, et c'était risqué. Enfin, reprenons les autres cohabitations qu'on a pu connaître. À chaque fois, le président de la République en est sorti plutôt sans trop de coups. Les formations qui, elles, étaient à Matignon n'ont pas réussi à prendre le pouvoir après.
Vous êtes en train de nous dire que c'est une bonne nouvelle pour le Rassemblement national, j'ai pas rêvé.
Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le Rassemblement national, effectivement.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Roucan ? Il voulait y aller ou il voulait pas y aller ?
Je mettrais un petit bémol, c'est vrai.
Puis
que
peut-être qu'il peut y avoir aussi des contradictions entre Jordan Bardella et Mme Le Pen.
Il peut. Il y a un bémol, c'est quand même les électeurs dans tout ça, parce que si on note un regain d'espoir un peu dans certaines enquêtes, suscité par ces élections qui sont quand même très dramatisées, c'est plutôt du côté des électeurs du RN qui, cette fois-ci, pensent qu'ils peuvent gagner. Donc, si M. Bardella et le RN montrent qu'en fait, il ne veut pas gouverner, il y aura quand même, à l'intérieur du parti et puis auprès des sympathisants, une petite dépression à gérer. Ensuite, il y a ce que vous dites. C'est-à-dire, évidemment, on pouvait se demander quel intérêt avait Marine Le Pen à voir Bardella prendre autant d'importance et finalement le lead.
C'est une question qu'on se pose tous depuis le début.
Mais le petit bémol par rapport à la cohabitation, c'est que c'est une cohabitation assez brève pour un parti qui n'a jamais gouverné. Oui. Alors, pensez l'user en 2 ans et demi. C'était peut-être un pari très risqué de la part du président qui, en plus, ne peut pas se représenter. Les présidents qui ont usé des cohabitants, c'était des partis qui avaient déjà exercé le pouvoir, qui étaient connus, identifiés. Oui.
Alors, la campagne, Olivier Roucan, les débats avant le premier tour étaient assez techniques et axés sur les programmes. Aujourd'hui, la gauche, comme la majorité sortante, n'ont quasiment aucune chance de l'emporter dimanche. Du coup, ça ne sert plus à rien de faire campagne sur un programme qu'ils ne pourront de toute façon pas appliquer, non, d'une certaine façon. Je sais que c'est incroyable ce que je vous dis, mais...
Il faut quand même susciter des reports de voix. Ouais. Donc, il faut trouver des...
Mais ça ne se joue plus sur les programmes, on est bien d'accord, d'une certaine
façon. Ça peut quand même se jouer sur quelques propositions... je dirais transverse, qui montre à l'électeur qu'il y a une certaine crédibilité pour gouverner après. Parce que là, il y a beaucoup quand même ce thème de l'ingouvernabilité du pays si on ne trouve pas une majorité. Mais vous avez raison, sur le fond, l'idée du rassemblement autour d'un front républicain, c'est quand même faire barrage. Ça sera la motivation première du vote, et donc ce n'est pas un programme.
Objectivement, aucun des programmes ne sera appliqué, en tout cas initiaux.
Non. Mais on voit bien qu'en fait, ils sont tous dans la reculade. Alors, on avait beaucoup parlé, avant le premier tour des élections législatives, des changements de pied du Rassemblement national, notamment sur le programme économique, le report, si ce n'est l'abandon de leur projet sur la réforme des retraites, et sur d'autres sujets de la vie économique. En revanche, là, je trouve que dans cet entre-deux-tours, alors tout d'un coup, les Insoumis et le Nouveau Front Populaire, ils ne parlent plus du tout de leur volonté de renverser la table. C'est ils ça. Sont tout d'un coup très matois.
C'est assez troublant, oui.
Très ronds, même d'ailleurs sur la forme. Hein, on voit que les députés Nouveau Front Populaire qui viennent sur vos plateaux essayent d'être le plus magnanime et évidemment le plus séduisant et rassembleur possible. Puis quant à la Macronie, bah, écoutez, voilà, le premier geste de Gabriel Attal, c'était de dire qu'il s'asseyait sur sa réforme de l'assurance chômage. Et on sent bien qu'ils ne sont pas là pour être disruptifs comme en 2017. Si vous pouvez me permettre, moi je ne crois pas au sondage Harris sorti ce jour. Oui. C'est que de l'arithmétique. C'est-à-dire qu'évidemment, sur le plan arithmétique, et les gens qui ont calculé ça dans l'Institut de Jean-Bernard Lévy ont des calculettes qui fonctionnent. Mais une élection législative, c'est aussi de l'irrationnel. On l'a vu en 2017. On nous annonçait François Baroin, Premier ministre, que Emmanuel Macron ne trouverait jamais une majorité présidentielle, quand bien même il venait d'être élu président de la République, et finalement les Français lui ont donné cette majorité. Ensuite, en 2020...
Pourquoi vous mettez entre parenthèses, de façon spécifique, ce nouveau sondage de Jean-Daniel Lévy?
Parce que c'est le premier qui sort depuis le dépôt des listes officielles, donc on pourrait se dire, voilà, ça s'appuie sur des éléments très factuels et concrets, qui sont le vrai nombre de désistements, les vraies candidatures.
D'accord.
Mais... ce que ce sondage ne peut pas mesurer et qu'aucun sondage ne peut mesurer, c'est l'aspect donc irrationnel ou imprévisible d'une élection législative. Et on a deux jurisprudences pour ça. 2017, avec donc Emmanuel Macron qui fait un triomphe aux élections législatives alors qu'on lui prédisait peut-être de devoir gouverner avec une majorité de droite LR à peine élue. Et en 2022, pour prendre un point précis, on prédisait une vingtaine de députés pour Marine Le Pen et elle en a eu 80. Là, ce qui peut se jouer... en 2024, dimanche prochain, c'est quand même une démobilisation des électeurs du Bloc central et de gauche. Parce que est-ce que l'électeur de gauche va se jeter sur le candidat macroniste alors que Emmanuel Macron, c'est la réforme des retraites, c'est Gérard Darmanin qui est très méchant place Beauvau, c'est tout ce que vous voulez. Pareil pour l'électeur macroniste vis-à-vis d'un candidat LFI.
Il y a quand même.
Non, juste une chose. Vous pensez, là, à la lumière de ce que vous êtes en train de nous dire, est-ce que vous pensez toujours que Jordan Bardella peut avoir une majorité absolue dimanche soir?
Alors, je pense que je pourrais vous répondre précisément à cette question dimanche, en début d'après-midi, quand on aura les chiffres de la participation.
Ah, vous dites que c'est lié à la participation?
Et que si il y a une grosse déperdition de participation par rapport au premier tour, elle ne sera pas due à l'abstentionnisme des électeurs RN qui, à mon avis, ne vont pas aller à la pêche dans ce deuxième tour. En revanche, la démobilisation des électeurs du Bloc central et du Nouveau Front populaire peut, elle, conduire, mais pour le coup, arithmétiquement, à une remontée des chances du Rassemblement national.
Ça vous fait réagir, Naïla?
Oui, parce qu'il y a une spécificité de cet entre-deux-tours pour l'instant. Nous sommes mercredi, pas échappé. Et pour l'instant, sur les trois premiers jours, il y a cette impression que la campagne est suspendue. Il n'y a pas de dynamique de campagne qu'on soit d'attribuer d'un côté ou de l'autre. En réalité, on vient de passer trois jours sur des annonces de désistement, d'accord, pas d'accord d'appareil.
C'est le thème de l'entre-deux-tours, c'est les alliances.
Et donc, la difficulté, c'est que autant il était, je pense, plus facile d'évaluer une dynamique dans un sens ou dans l'autre, dans un premier tour où il y avait beaucoup de terrain, où nos reporters pouvaient suivre aussi un certain nombre de déplacements. Là, il semblerait que la campagne soit suspendue. Est-ce qu'une campagne suspendue crée une dynamique pour un côté ou de l'autre, ou est-ce qu'elle fige en quelque sorte des rapports de force? Si elle fige des rapports de force, ça veut dire que Jordan Bardella peut être beaucoup plus haut que le sondage qui nous est parvenu aujourd'hui. Si une campagne suspendue vient rebattre les cartes, eh bien, auquel cas, le sondage peut être commenté comme une photographie à l'instant d'un rapport de force.
Alors, en tout cas, la dynamique sera largement relancée ce soir dans ce Face à BFM. Et le premier à prendre la parole sera Gabriel Attal, le Premier ministre qui monte encore d'un cran dans son implication vis-à-vis du Front républicain. Il a appelé, dès ce matin, à faire barrage au RN, quel que soit le candidat en face. Écoutez-le.
Jamais je ferai d'alliance avec la France insoumise. Aujourd'hui, la France insoumise n'est pas en situation d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale et de gouverner le pays. En revanche, l'extrême droite, le Front national, est en situation d'avoir une majorité absolue et de gouverner le pays. Donc ça ne fait pas plaisir, évidemment, à beaucoup de Français de devoir faire barrage au Front national en utilisant un autre bulletin qu'ils n'auraient pas voulu. Moi, je le dis ici, je considère que c'est aujourd'hui notre responsabilité que de le faire.
Alors, Amandine Atalaya, le Premier ministre n'évoque même plus le cas par cas. Il incite à voter LFI contre le RN, quel que soit le profil du candidat dimanche.
Oui, il est parti là-dessus dès le début, sur une ligne qui lui était très personnelle de l'extrême droite ne doit pas l'emporter, quitte à voter LFI. Il a vu s'opposer à lui plusieurs personnalités de droite du gouvernement. Par exemple, Bruno Le Maire n'est pas du tout d'accord avec lui. Il lui dit ni RN ni LFI. Gérald Darmanin l'a dit cet après-midi, il n'est pas du tout d'accord non plus. Édouard Philippe, en dehors du gouvernement, n'est pas du tout d'accord non plus. En gros, tous ceux de droite ne sont pas d'accord au sein de la majorité avec ce que dit Gabriel Attal. Après, il y a deux façons de le voir. On en discutait justement avec Tudual en écoutant le son. Moi, dans la mesure où LFI ne gouvernera pas, j'entends son point de vue. C'est-à-dire que c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron ce matin. Désistement ne vaut pas gouvernement. Donc, ils ne gouverneront pas avec la France insoumise. Et quand bien même des élus LFI arrivent à l'Assemblée nationale, de toute façon, ils ne seront pas suffisamment nombreux pour faire passer des textes ou leurs idées. Donc, c'est, me semble-t-il, une sorte de consigne sans conséquences politiques à long terme, si ce n'est quand même une incompréhension d'une partie des électeurs sur le fait qu'ils ont tapé dessus comme des sourds pendant des mois en disant qu'LFI était à peu près le pire de ce que la politique pouvait produire.
Et ça n'échappera pas aux électeurs.
Et que donc, ils devraient être plus cohérents sur leur discours, ça c'est certain.
Non, c'est vrai qu'effectivement, il y a deux lectures, et moi, celle que je fais, en essayant quand même d'être un peu objectif, c'est que certes, de ne pas être prévisible comme le directeur de Valeurs Actuelles, etc.
On y pense un peu quand même, mais bon, voilà.
Certes, Gabriel Attal a toujours un mot pour rappeler qu'il ne veut pas une voix pour le Rassemblement National, mais on sent quand même gêné en nos entournures et obligé de rappeler à chaque fois que LFI, c'est vraiment pas du tout sa came, si vous pouvez me permettre l'expression.
Oh oui, parlons normalement.
Et que à quel point ils ne peuvent pas gouverner avec LFI et qu'à l'intérieur de ce nouveau Front populaire, il y a cet épouvantail, la France insoumise. Donc ça a deux conséquences. D'une part, quand même, un peu démotiver des électeurs du Bloc central parce qu'ils ne comprennent pas. On leur dit, votez pas RN, mais bon, par ailleurs, les autres, ce n'est pas non plus la panacée. Et la deuxième conséquence, c'est que dans les désistements qu'il y a, il y a beaucoup plus de candidats nouveau Front populaire qui se sont désistés au profit de candidats macronistes que de candidats macronistes qui se sont désistés au profit de candidats Nouveau Front Populaire. Mais quand il va falloir aller voter pour des candidats Nouveau Front Populaire, bah écoutez, moi je ne sais pas combien d'électeurs du Bloc Central il restera.
Je reviens un tout petit peu en arrière parce que ça a dû être pas mal le Conseil des ministres aujourd'hui quand même. C'est-à-dire, le climat devait être un peu particulier. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Loufritel ? Tension entre droite et gauche macroniste.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit les consignes de vote, on voit qu'elles divergent en fonction d'où parle la personne concernée.
Bien
je veux
sûr.
Dire, Bruno Le Maire, effectivement, il vient de la droite. D'ailleurs, les personnes qui font partie, par exemple, du club Concorde, donc qui est un club de députés macronistes de droite, qui sont des bébés Le Maire, ont envoyé des textos à tout le monde en disant « Nous, c'est Nini, vraiment, nous sommes très choqués par la position gouvernementale. » Quand, à côté de ça, ceux de gauche disent « Mais vous ne vous rendez pas compte, le pire pour la France, c'est le Rassemblement National. » Et quand on leur pose la question « Oui, mais pourquoi est-ce que vous avez tapé comme des sources sur LFI pendant tous ces mois ?» Ils disent « Non, mais vous ne vous rendez pas compte, ils ne peuvent pas gouverner. Ce n'est pas grave. On peut appeler à voter pour eux. » Donc, effectivement, j'imagine, moi, c'est vrai que je suis plutôt la droite, mais j'imagine qu'en Conseil des ministres, ça devait être assez intéressant. Il faut savoir aussi que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, par exemple, ne se parlent plus depuis des mois et surtout depuis la dissolution. Avant, il y avait donc les réunions officielles, Conseil des ministres, etc. Mais les rapports étaient extrêmement tendus. Donc, on imagine que ça n'a pas dû tellement s'améliorer, mais pas non plus tellement s'empirer.
Olivier Roucan, la question. On est rentré dans l'ère dans l'ère des règlements de compte. D'une certaine façon, c'était un.
On va patienter.
La droite encore. De la Macronie, la gauche, les ambitions des uns et des autres. Le Premier ministre avec le président de la République aussi, visiblement, c'est pas simple.
Ouais, on va patienter un peu. Il y a quand même. On dit, il y a pas de dynamique. Bon, la dynamique pour tout un électorat existe sur le thème. On ne veut pas du Rassemblement National. Et plus on se rapproche du jour de l'élection, plus ça peut avoir une efficacité. Faut pas balayer d'un trait de plume quand même la réussite qu'obtient Gabriel Attal sur le résultat, sur le faible nombre de triangulaires. Parce que ça, c'était relativement peu anticipé.
Oui.
Voilà, donc ça peut quand même insuffler quelque chose, y compris auprès d'électeurs de Renaissance. Sachant qu'il est vrai qu'en 2022, ce n'était pas le cas, hein, parce que la perspective du RN au pouvoir n'était pas là. Donc, il peut y avoir un changement psychologique auprès de ses électeurs à l'approche du second tour et de ce que ça pourrait produire. Les règlements de compte, bon, est-ce qu'on doit appeler les règlements de compte ce qui pourra se passer dans l'après en termes de négociations pour former une majorité, même relative?
Oui.
C'est ceci qui se prépare. Et puis, évidemment, pour certains, 2027, pour Jean-Luc Mélenchon, mais aussi pour, sans doute, Édouard Philippe, voire Bruno Le Maire, ils sont déjà dans cette perspective.
Bien
mais ça
sûr.
Va passer par l'étape intermédiaire de la réorganisation des groupes.
Oui.
Et il faudra bien quand même, si on est sur des responsables politiques, que certains assument de participer à un gouvernement. Même si c'est un gouvernement d'union nationale, techno, un peu neutre sur le plan politique. Il faudra quand même que des femmes et des hommes politiques jouent le jeu.
Y aille.
Sans quoi, là, vous parliez tout à l'heure de méfiance démocratique, on retrouvera à nouveau, après pourtant un vote très participatif et une élection très participative, on retrouvera à nouveau un malaise démocratique.
Il faut qu'on parle de Marine Tondelier, mais vous vouliez intervenir quelques mots, s'il vous plaît.
On dit qu'il n'y a pas de thème de campagne. C'est vrai que pendant les européennes, on parlait de la crise agricole, de l'insécurité. Pendant le premier tour des législatives, on était sur les programmes des différentes forces en présence. Là, vous voyez, votre intervention le confirme, mais parce que c'est la réalité, on ne parle que de projection, de gouvernement d'union nationale, de tripatouillage, d'alliance qu'on n'aurait pas imaginé une semaine avant.
Qui va faire quoi et comment?
Donc, il faut quand même anticiper le dégoût démocratique que cela va produire. Un électeur du Nouveau Front Populaire, c'est un vote tranché, tranchant. Un électeur du Rassemblement National, c'est un vote tranché et tranchant. Et à tous ces gens-là, qui représentent quand même quasiment 70% de la population française, on va dire à partir de lundi 8 juillet...
Ça se termine avec du Blouby-Bolgia, c'est ça ?
Eh bien écoutez, je vous propose un gouvernement avec Xavier Bertrand et Marine Tondelier. Honnêtement, vous imaginez le sentiment d'ahurissement total sur le plan démocratique que cela va produire.
Ça vous fait tous réagir.
Justement, sur la question d'un gouvernement d'union nationale, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, on essaie de comprendre quel serait le but, mais le but surtout c'est réussir à gouverner pendant un an, parce que dans un an il y aura sûrement une dissolution. En tout cas, c'est un bruit qui court à l'Élysée, c'est quelque chose qui est anticipé par les partis. Est-ce qu'il n'y aura pas une dissolution dans un an ou un an et demi? Et après on est dans un cycle d'élections, les municipales, la présidentielle.
Comme il y a pu y avoir en Espagne, Et pourquoi appeler tripatouillage la formation d'une coalition qui peut être négociée de façon relativement transparente? Et pourquoi
parce
vouloir...
Parce que Xavier Bertrand n'est pas représentatif d'aucun électeur quasiment...
polariser...
Xavier Bertrand. Bah, oui, on l'a vu, il s'est présenté à la primaire, il a fait quatrième, il était parti de LR, il est revenu. Que Marine Tondelier, bah, c'est pas la tête de gondole, je suis désolé, de tout le Nouveau Front Populaire.
Eh ben parlons-en, si vous voulez bien.
C'est la chouchoute des médias, mais c'est pas, elle est moins populaire que Jean-Luc Mélenchon.
Alors, de, la, de ce que vous prétendez être la chouchoute des médias, donc deuxième candidate qui s'exprimera sur notre plateau ce soir, je le rappelle, en l'occurrence Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Elle a marqué cet entre-deux-tours grâce notamment à une forme d'émotion. On la découvre au bord des larmes. C'était lundi matin sur France Inter.
Je suis un, atterré, et deux, extrêmement en colère.
On vous sent très ému.
Très ému, parce que ça fait 10 ans que je vis dans une ville tenue par le Rassemblement National. Et ce que vient de faire Bruno Le Maire, c'est un comportement de lâche et de privilégié. De privilégié. C'est hors sol, c'est lunaire et c'est pas à la hauteur de l'histoire. Est-ce que le Rassemblement National a la possibilité d'être en majorité absolue à l'Assemblée nationale? La réponse est oui. Oui. Est-ce que la France insoumise a la capacité d'être à la majorité absolue à l'Assemblée nationale? La réponse est non. Est-ce qu'ils ont la capacité d'avoir un Premier ministre? La réponse est non. Donc ils se trompent de problème. Ils se trompent de problème. Et donc franchement, je suis atterrée. Vraiment. Ils ont choisi le déshonneur aujourd'hui. Ils auront le déshonneur et la défaite.
Est-ce qu'elle a marqué des points dans son camp avec ce moment d'émotion, cette séquence, mais aussi avec des prises de parole qui ont souvent été assez percutantes pendant la campagne?
Dans
j'ai envie
camp,
de vous dire,
oui.
C'est elle qu'on a découvert, en tout cas.
Dans son camp, oui. Bah, oui. Il faut dire qu'elle était jusque-là complètement méconnue, Marine Tondelier, et qu'elle n'avait pas marqué les esprits. Donc, au sein de la gauche, elle a marqué des points chez ceux qui sont effrayés par l'accession possible du Rassemblement National au pouvoir. D'autres Français, très honnêtement, en fait, il y a deux France, il y a un décalage total. Il y a tous ces Français aussi qui trouvent Marine Tondelier très excessive, voire ridicule. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent absolument pas qu'on puisse pleurer à l'idée d'avoir un parti au pouvoir dont ils estiment qu'il, voilà, qu'il n'est pas dangereux au point de se mettre dans ces états-là. Donc ça
voilà,
dit
moi,
bien...
je la trouvais émouvante et vous la trouvez ridicule.
Bon, non, j'ai dit, il y a des aussi. Français, oui, une partie de la France qui la trouve ridicule. Et ça peut... Enfin, ça marche vraiment dans les deux sens, en fait. Ouais. Elle est déjà convaincue, le reste. Et puis les autres, bah, ils voient un carburant supplémentaire pour voter contre cette France qu'ils estiment déconnectée, qu'ils ne comprennent plus.
Et peut-être pour abonder le propos d'Amandine, il se trouve qu'il y a deux parties dans son propos. Il y a toute l'émotion et la réaction au propos de Bruno Le Maire qui... juste avant appelait à ce que pas une voix n'aille non plus à la France insoumise. Donc,
bien sûr.
Son émotion. Et elle finit en disant, est-ce que la France insoumise peut avoir demain un Premier ministre? Non. Et ça, par exemple, c'est une déclaration qui a aussi été notée du côté de la France insoumise, qui répète sur le mode de désignation d'un Premier ministre post 7 juillet qu'il faudra qu'il soit issu du groupe majoritaire. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde le nombre de candidats et leur étiquette originelle présents au second tour, eh bien, au sein de la gauche, ceux qui ont le plus de candidats qualifiés au second tour, c'est la France Insoumise, qui aura vraisemblablement le groupe le plus important à gauche, qui explique qu'il faudra, si majorité il y a, que le Premier ministre soit issu de ses rangs. Et donc ça, c'est une phrase qui a un petit peu heurté. Par ailleurs, la hype, si vous me passez l'anglicisme, cette révélation de campagne, ce que nous écrivons à l'antenne, l'omniprésence de Marine Tondelier dans cet entre-deux-tours, ça en agace d'autres au sein du Nouveau Front Populaire. L'un d'eux que j'avais au téléphone me disant « elle se prend pour la nouvelle Rosa Parks
gentil.
figure de la lutte notamment antiraciste. Mais tout ça pour dire, il y a aussi dans un moment où la gauche s'interroge sur sa solidité post 7 juillet, sur qui incarnera le leadership de ce Nouveau Front Populaire, tout comme il y a eu la bataille de qui incarnait le leadership au sein de la NUPES, Marine Tondelier irrite une partie de ses alliés, alors même qu'elle a beaucoup œuvré pour le coup pour l'existence de ce Nouveau Front Populaire, puisque c'est elle, alors que les socialistes et les communistes souhaitaient plutôt discuter à trois, communistes, socialistes, écologistes, c'est elle qui pèse en disant il faut que les insoumis soient inclus dans cette discussion.
Alors le dernier à intervenir ce soir est donc Jordan Bardella sur BFM TV, le président du RN, qui durcit le ton après ces révélations embarrassantes ou grotesques sur plusieurs de ses candidats. On l'écoute là aussi.
lorsqu'il y a des brebis galeuses, il peut y arriver qu'il y en ait d'ailleurs. Moi, je n'ai pas la main qui tremble. Et donc, effectivement, j'ai souhaité retirer l'investiture à des gens dont je n'avais pas connaissance. C'est-à-dire que quand on va chercher sur les pages Facebook des tweets, des profils, des propos qui ont été tenus il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'est vrai que parfois la presse a des moyens de police. Parce qu'il y a des, faut savoir qu'il y a des, il y a des journalistes dont le travail c'est d'enquêter toute la journée sur les candidats, les suppléants, la grand-mère des suppléants, la boulangère de la grande-tante du suppléant.
C'est pas un travail d'enquête que vous faites dans les partis.
Et donc, c'est-à-dire qu'en 48 heures, quand on nous annonce une dissolution en 48 heures, on a 577 candidats à investir, donc évidemment qu'on regarde tout ça avec un très grand intérêt, mais dans 99,9% des cas, il y a absolument aucune difficulté.
C'est embêtant les journalistes, hein, parce que ça essaie de s'intéresser aux candidats qui se présentent aux voix des Français. Loufritel, on voit les révélations s'enchaîner en fait depuis quelques jours sur les phrases de certains candidats. RN, je dis bien certains candidats. L'incendie doit vite être éteint ou finalement c'est pas si grave que ça pour Jordan Bardella, même s'il le prend pas très bien.
Ce qui est très paradoxal, c'est que le Rassemblement National a monté il y a 2 ans une cellule dite Plan Matignon de façon à pouvoir préparer des investitures en cas de dissolution.
Oui, donc c'était pour éliminer les oseaux éventuels. Oui.
Et aujourd'hui, un certain nombre de profils émergent et semblent pas forcément très, très bien choisis. Et nous, ce qu'on nous dit, c'est « mais vous ne vous rendez pas compte, la campagne s'est faite extrêmement rapidement. On a dû investir 400 personnes en 2 jours. » Ce qu'on a pu entendre aussi chez LFI.
Oui.
C'est vrai que l'argument tient pas forcément. On se demande comment s'est fait cette sélection. Et d'autre part, je ne suis pas sûre que ça leur porte si atteinte que ça, dans la mesure où... De toute façon, c'est une élection très rapide. Les Français prennent tellement d'informations dans la figure ces derniers jours, et en même temps dans une campagne suspendue, qu'ils ne vont pas regarder qui présente quoi. Je veux dire, je pense aussi que l'investiture de Fiché S chez LFI n'a pas porté...
Le parti est plus important que le candidat ? Et l'idée qu'on se fait du...
Le candidat, plutôt, est plus important que tout. Je veux dire, Jordan Bardella, il a une aura en ce moment qui est absolument dingue. Il réussit à capter un intérêt de la part des médias, mais de la part aussi des jeunes sur les réseaux sociaux, de la part des sympathisants, mais sans même que les gens s'intéressent vraiment au programme du Rassemblement National.
Visiblement un peu moins dans cet entre-deux-tours, avec en tout cas le dernier sondage Harris Interactive.
Hein. Mais là, on parle de législative, on ne parle pas de personnalité.
Oui.
On parle de législative où effectivement, il y a eu 200... triangulaires qui ont été... 200 personnes se sont désistées de façon à ce qu'il n'y ait plus que 100 triangulaires. Donc, on se retrouve dans une situation où, si on avait été avec un parti considéré comme normal par la population et d'autres formations politiques, ils auraient pu avoir une large majorité absolue. Ce n'est pas le cas parce qu'il y a eu un front républicain.
Oui, je vois réagir. Voir froncer le front depuis un petit moment.
Avec attention, il y a aussi la détermination des lecteurs. On nous dit que c'est un vote d'adhésion quand même désormais en partie. Hein. Ce n'est pas qu'un vote uniquement sur la figure du Premier ministrable. Donc il y a quand même des idées qui ont fait leur chemin. On le voit bien, une sociologie, une insécurité culturelle par endroit, tout ceci motive ce vote RN et c'est à prendre au sérieux dans la durée. Et notamment le fait qu'il est maintenant très dominant dans les aires urbaines. Donc je pense que le phénomène Bardella, on parlait tout à l'heure de phénomène médiatique à propos de notre nom Tondelier, c'est aussi quand même, une fabrication d'images qui ne reflète pas totalement la profondeur des évolutions électorales qui sont, elles, à prendre très au sérieux, parce que ces deux résultats autour de 30% pour le RN, ça, c'est quand même un phénomène inédit qui fait aussi beaucoup réfléchir les élus LR, les élus locaux. Et dans 2 ans, il y a des municipales.
Dans un contexte de forte participation, qui plus est,
d'ailleurs,
c'est législative. Tordait le cou à l'idée que les abstentionnistes, ou en tout cas qu'une forte participation pouvait nuire au parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Voilà.
Alors vous l'avez compris, dimanche soir à 20h, le pays fait un grand plongeon dans l'inconnu. Soit le Rassemblement National prend le pouvoir pour la première fois s'il obtient la majorité absolue, soit, et c'est ce que semble indiquer le premier sondage depuis les désistements, il n'obtient qu'une majorité très relative. Il faudra alors trouver un gouvernement avec une composition inédite, l'hypothèse de très larges coalitions est sur toutes les lèvres depuis quelques jours. Une évidence pour le porte-parole du gouvernement qui s'exprimait à l'issue du Conseil des ministres. On l'écoute.
Être en capacité de travailler ensemble autour de valeurs claires et connues, qui sont les valeurs de notre République, je pense que c'est pas nouveau. On l'a fait au cours des dernières semaines, des derniers mois et des dernières années. Maintenant, je pense qu'il s'agit pas simplement d'aller vers un parti ou un autre, mais bien de regarder les problématiques que nous adressent les Français, de voir comment, ensemble, en responsabilité et dans le respect des valeurs qui sont celles de notre pays, on peut y répondre ensemble. Donc je le dis encore une fois, rien de nouveau dans notre position et je n'ai pas plus de commentaires à faire sur ce principe de bon sens qui a été édicté.
Tugdual Denis, de Valeurs Actuelles, est resté avec nous et nous sommes rejoints par Cyril Rilhac, qui est député sortant Renaissance du Val-d'Oise, Aurélie Trouvé, députée France Insoumise, Nouveau Front Populaire de Seine-Saint-Denis, Jean-Paul Garot, magistrat, président de la délégation Rassemblement National au Parlement européen, Pierre Giacometti, politologue, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, cofondateur du cabinet de conseil en stratégie NoCom, et Thierry Arnaud, éditorialiste de BFM TV. Pierre Giacometti, nous avons donc le premier sondage depuis la constitution de ce large front républicain pour faire barrage au RN. Il est signé de l'Institut Harris pour M6 et RTL. Et la projection en siège est assez stupéfiante. 220 députés au maximum pour le RN, très loin de la majorité absolue. Est-ce que c'est une surprise ?
Les projections en siège, c'est à consommer avec précaution.
D'accord.
Depuis toujours.
Voire modération.
Si vous regardez vos archives entre les deux tours des législatives de 2022, aucun institut n'avait prévu les 89 sièges du Rassemblement national. On se promenait, entre guillemets, entre 30 et 50. Ça n'est pas mettre en cause leurs compétences. C'est simplement quand ils vous racontent l'histoire d'il y a deux ans, ils vous disent tous, les situations locales dans lesquelles se joue souvent le siège à quelques points près, voire quelques centaines de voix près, on en a fait l'expérience en 2022.
Oui.
Et là, cette année, il y a un ingrédient supplémentaire, c'est que l'opération de désistement massif auquel on a assisté depuis 2-3 jours, c'est une inconnue de plus dans les comportements électoraux de ceux qui, ayant voté pour un candidat au premier tour, ne le retrouvent pas au second tour. Et l'expérience que j'ai de ces seconds tours de législative, depuis assez longtemps, maintenant je ne m'occupe plus vraiment de ça, mais,
mais
je m'en souviens.
Ça a été votre métier, bah
je
oui.
Je peux vous dire qu'on est souvent très très surpris du décalage considérable qu'il y a entre le comportement électoral au second tour et les consignes de vote, les désistements. Les électeurs sont libres et souvent on a vu des renversements. Je me souviens aussi même de, on va se vieillir un peu, 97. En 97, je peux vous dire qu'il y a un paquet de circonscriptions, des centaines, où ça se joue à rien et où les comportements électoraux se jouent localement. Autrement dit, les matrices, qu'on appelle dans le jargon de report de voix nationale, caractère opérationnel au niveau local, zéro. Presque. Donc, je ne dis pas que ça ne vaut rien. Je dis simplement que vous allez avoir d'ici la fin de la semaine quelques projections en siège et je suis sûr que tous les sondeurs vont tous prendre la précaution d'être extrêmement, j'allais dire prudent, c'est un euphémisme, mais vont attirer l'attention sur le fait que ces projections ne valent pas loi. Ce ne sont pas des sondages, ce sont des calculs qui sont fondés sur des hypothèses.
Je n'avais jamais vu ça, vous avez tous abondé de la tête et vous êtes tous d'accord pour dire en ce moment, en gros... C'est extrêmement fort. Bon, il ne faut pas faire confiance aux sondages, Thierry Arnaud.
Oui, je pense que d'abord, il y a l'expérience passée. Ensuite, il y a la configuration présente qui est totalement sans précédent. Le fait qu'on soit passé de la possibilité de plus de 300 triangulaires à moins d'une centaine, finalement, une fois les candidatures déposées.
Oui.
Donc, ça veut dire beaucoup de désistements et beaucoup d'électeurs, des millions d'électeurs qui vont perdre leur candidat et qui vont donc devoir choisir entre deux possibilités qui ne sont pas celles qu'ils voulaient. Ça interroge beaucoup. Et moi, je voulais vous renvoyer aussi vers un autre sondage qui sort ce soir et qui est très intéressant, qui est le sondage IFOP pour nos confrères du Figaro et qui pose la question tous les jours aux Français de savoir quelle majorité ils veulent et s'ils sont prêts à vouloir une majorité du Rassemblement national. Ils sont 50% ce soir à répondre oui à cette question. 50% des Français disent souhaiter une majorité absolue et un gouvernement du Rassemblement national. Ils étaient 37% hier. Alors, l'IFOP précise que la question qui est posée entre hier et aujourd'hui n'est pas tout à fait la même et que ça induit un biais qui suggère que cette différence de 13 points en l'espace de 24 heures, elle est surestimée. Néanmoins, je rejoins Pierre Giacometti, c'est 220 sièges pour le Rassemblement national. On verra, c'est possible, mais c'est une prédiction qui est à prendre avec prudence.
Alors, comme dit l'homme de l'art, et puis on fait circuler la parole quand même. J'ai vu que vous réagissez.
Le sondage est d'autant plus intéressant, Thierry Arnaud a raison. Il y a, dans ce sondage, deux détails qui m'ont frappé. Dans l'électorat LR, c'est 50-50. Souhait de victoire. Alors, c'est souhait de victoire et gouvernement de la France.
Exactement.
C'est précis. C'est pas simplement.
Pardonnez-moi. L'enquête que j'ai citée initialement, vous nous dites qu'il faut pacifier. Et celle-là, vous dites non, mais oui.
On parlait de projection. Là, on parle de sondage d'opinion.
Oui, c'est très pas bien. La même chose. C'est pour ça que je vous le fais remarquer.
50% d'électeurs LR qui souhaitent que le RN gouverne. Mm-hmm. Ça veut dire que le comportement électoral des électeurs LR ou sympathisants, plus ceux qui n'ont pas voté au premier tour. Vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de déplacements d'électeurs qui n'ont pas fait le choix de s'exprimer, mais qui viennent au deuxième tour. Pourquoi ? Parce qu'au deuxième tour, c'est le tour décisif. On va élire ou écarter.
Donc on va encore battre un record de participation, selon vous ?
Depuis 1997, aucun second tour, dans aucun second tour, on a plus voté qu'au premier tour. Et sous la Ve République, c'est très rare qu'on vote plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes qui ne votent pas, parce qu'il y a des candidats qui ont disparu du champ.
Bien sûr.
Mais il y a un deuxième élément dans le sondage qui est intéressant. 15% des électeurs LFI, ou de la gauche, souhaitent la victoire du Rassemblement national. 25% des électeurs macronistes, qui ont voté pour un candidat macroniste, souhaitent la victoire du Rassemblement national. Malgré les éléments du Front républicain qui se sont développés ces derniers jours, je suis quand même frappé que face à ce barrage, vous ayez un Français sur deux qui souhaite voir le RN gagner, mais aussi gouverner le pays. Donc vous voyez, ces inconnus-là font qu'il faut être un tout petit peu attentif à ce qu'on lit ce soir sur ces projections anciennes.
Jean-Paul Garot, initialement, je voulais vous faire remarquer que le Front républicain que vous dénoncez était le vrai coup dur de votre campagne, et à moins que vous pensiez que ça renforce vos électeurs possibles, à la lumière en tout cas des derniers sondages, qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais moi d'abord, je partage totalement ce qui vient d'être dit, et je pense d'ailleurs que d'abord, d'une part, il y a une dynamique que personne ne peut contester, et en général, les dynamiques, elles ont tendance à s'amplifier, à moins bien sûr qu'elles soient cassées par un événement particulier pendant ces 8 jours. Et bien entendu, tout est fait pour démobiliser notre électorat. Mais il n'y a rien qui peut casser cette dynamique aussi forte. Qui plus est, cette opération de désistement massive, véritablement apparaît aux yeux de nos concitoyens comme une opération purement électoraliste. Encore une fois, on veut dire à nos concitoyens, surtout ne votez pas pour celui-là, on leur enlève les candidats.
Celui-là, c'est vous. Hein.
Non, pas
vous en particulier. C'est votre parti qui continue d'avoir une place particulière dans la vie politique française.
Non, nous, on se maintient, bien sûr, et surtout quand on peut se maintenir. Et surtout, on ne donne aucune consigne de vote. Parce qu'on considère que nos concitoyens sont quand même des gens majeurs et qu'ils sont libres de leur vote. Alors que tous les autres, dans une opération d'alliance contre nature, hein, je ne reviens pas sur le détail, je pourrais naturellement, eh bien, en réalité, ça ne plaît pas du tout aux gens. Et même des gens qui ne votaient pas pour nous, et cela résulte d'ailleurs de ce que vous venez de dire, s'offusquent, pour ne pas dire autre chose, de ce qui est en train de se passer. Donc je crois très fermement qu'encore une fois, le président de la République avait voulu dégoupiller une grenade par la dissolution qui lui a explosé à la figure. Et bien maintenant, on assiste un peu à la même chose, ça va se retourner contre eux.
Est-ce que tout sauf le RN, c'est devenu contre-productif, Aurélie Trouvé ?
Mais d'abord, je voudrais dire que nous ne sommes pas dans une ambiance tout sauf le RN, parce que c'est surtout tout et surtout le nouveau Front populaire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une seule donnée juste ici, c'est l'effondrement de la Macronie, d'accord ? À la fois aux élections européennes et aujourd'hui aux élections législatives. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste en mesure de gouverner soit l'extrême droite, le Rassemblement national, soit le nouveau Front populaire. Et je veux d'abord dire également que tout est ouvert.
Donc rien, vous estimez que vous êtes toujours en mesure de gouverner ?
Rien n'est joué. Vous savez, nous avons déjà 32 élus dès le premier tour du nouveau Front populaire, dont je fais partie, on ne s'est pas revu depuis, hein. J'ai pris 63% dimanche dernier, et nous sommes un certain nombre dans ce cas. Mais surtout, nous sommes présents dans 303 circonscriptions, nous sommes présents au second tour, et donc nous pouvons emporter une majorité absolue pour le nouveau Front populaire. Et je veux dire une chose, c'est que non seulement nous sommes désormais le seul rempart face à l'extrême droite, mais je veux dire aussi à tous les Françaises et les Français que nous avons été depuis 2 ans le seul véritable rempart aussi face à la Macronie, parce que nous, l'extrême droite a voté bien plus que nous, et la plupart du temps avec les macronistes, par exemple pour la hausse des loyers, par exemple contre l'augmentation du SMIC et des salaires, ou encore vous savez qu'ils abandonnent le fait d'abroger la retraite à 64 ans. Bardella parle maintenant d'une retraite à 66 ans. Donc je veux dire aux Françaises et aux Français, vous qui en avez marre d'Emmanuel Macron, et je peux le comprendre, il a vu le bilan catastrophique, sachez que le véritable rempart aujourd'hui, ce qui peut vous améliorer votre vie, d'accord, de tous les jours, c'est bien le nouveau...
Cyril Rilac, en fait, tout le monde fait campagne contre vous. Non pas vous personnellement, mais contre le président de la République.
Ah si, sur le terrain, moi je l'ai bien vu, que tout le monde a fait campagne contre moi au premier tour.
C'est vrai.
Donc,
racontez-nous.
C'est une réalité. Je crois que ce soit des tracts LR jusqu'au tract de l'NFP, j'étais citée dedans. Donc en effet, sur le premier tour, c'était tout sauf
à ce stade-là, c'est un hommage.
La Macronie. Maintenant, le réflexe en effet républicain qui est aujourd'hui le mien, c'est de dire oui, moi je suis arrivée en troisième position. Mmh. Je suis arrivée en position où normalement le candidat du NFP est inatteignable.
Nouveau Front Populaire, je le rappelle.
J'ai fait une analyse aussi, je connais mon territoire sur le bout des doigts et il est vrai que je préfère aujourd'hui me désister parce qu'aujourd'hui je suis profondément en opposition avec le programme que présente le Rassemblement National. J'ai peut-être, quand je prends la...
Parce que vous préférez celui de l'extrême gauche.
Quand je prends le programme, pas de l'extrême gauche, mais je prends le
vous
programme.
Vous préférez celui de l'extrême gauche, antisémite, islamo-gauchiste.
Excusez-moi de parler.
Non,
merci.
Excusez-moi, mais vous préférez ce programme-là.
Je ne porte pas de laisser parler et vos opposants et les femmes.
Et donc, sur le nouveau Front Populaire, oui, il y a des mesures avec lesquelles je suis en
profond désaccord.
En fonction, voilà. Mais il y en a d'autres, oui, je pourrais tout à fait les voter. Et en tant que parlementaire, pendant 7 ans et particulièrement ces deux dernières années, je sais aussi qu'il y a des voies de passage. Je sais que c'est difficile de travailler avec la France insoumise. Je l'ai vécu. Je sais que par rapport au Rassemblement national, il y a des choses où je n'ai quasiment jamais été d'accord avec une de leurs propositions.
Mais, n'empêche
que nous avons réussi pendant ces deux années, à trouver des voies de passage, à faire voter des textes. Un coup, c'était avec nos collègues socialistes, écologistes. La France insoumise s'est à certains moments d'ailleurs abstenue sur certains textes pour qu'ils soient votés à l'unanimité. Donc, pour moi aujourd'hui, oui, la priorité, c'est en effet de s'opposer au projet politique du Rassemblement
Pourquoi
national.
Pourquoi vous l'estimez dangereux?
Qui est dangereux, non, mais dites-vous,
vous l'estimez dangereux.
Point de vue, oui, il est dangereux pour la société.
Pas celui de la France insoumise.
Il est dangereux.
Pas celui de la France insoumise.
Il est dangereux économiquement. Ça, c'est,
mais, enfin, quand
c'est,
même.
Mais il est aussi dangereux démocratiquement parce que l'histoire nous l'a enseigné. Et il est dangereux, et là c'est la femme qui est en face de vous qui va vous parler, pour le droit des femmes, pour le droit des minorités et pour l'égalité simplement
arrêtez,
des droits des hommes
arrêtez,
et des femmes.
Citez-moi, voilà. Citez-moi une seule disposition extrémiste dans notre programme et arrêtez de parler d'extrême droite. Arrêtez, vous le saviez bien. Il y a 10 millions de Français qui ont voté pour nous qui sont des extrémistes. Il y en a 13 millions qui se préparent qui sont des extrémistes.
Je ne mélange pas votre programme et
vos
électeurs.
Non, mais arrêtez, ça suffit. Enfin, franchement, là, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous dites. Vous venez de vous désister par rapport à une candidate LFI.
Non, papa, moi, ce n'était pas une candidate LFI sur le territoire.
Alors que vous ne partagez pas vraiment, a priori, un certain nombre de dispositions.
Je partage beaucoup plus de leur projet
de
que du vôtre.
Extrémiste de la
LFI. C'est nous que vous traitez.
Oui, madame. Oui, parce que quand
vous qui avez été, vous dont le parti a été fondé par des nazis. Une des candidates se balade avec une casquette nazie.
Arrêtez.
Vous avez vu, vous avez une candidate qui s'est baladée avec une casquette nazie il y a quelques jours. C'est pas vrai?
Non,
c'est pas vrai?
Pardonnez-moi.
Ah bon, parce que chez vous, il y a personne qui.
Ah non, qui se balade avec une casquette nazie, non, je vous assure.
Mais la différence, c'est qu'elle a été virée.
Tu du Aldoni. Allez-y.
Oui.
Non, mais la différence, madame, c'est que quand le Rassemblement national.
C'est la valeur actuelle. Allez-y.
Oui.
Ça
m'empêche de parler
Priorité au direct, je vous interromps, puisque nous assistons à l'arrivée de Marine Tondelier, si je ne m'abuse, dans nos studios, pour le grand débat qui aura lieu ce soir sur notre antenne. Voilà, elle est accueillie, saluée. Tout ce petit monde est en train de lui dire bonjour. Alors, je n'ai pas encore vu sa veste verte, qui est généralement devenue son. Ah, si, elle l'a dans la main. Elle l'a dans la main. C'est parfait sur un petit cintre. Je vous ai pas senti très enthousiaste tout à l'heure quand je vous demandais si elle n'était pas quand même une des découvertes de cette.
Moi, je suis sur la séquence émotion, l'arme de crocodile que vous avez diffusée, où elle est très émue que Bruno Le Maire ose dire pas une voix Rassemblement National, oui. Mais aussi pas une voix à LFI. Bon, j'aurais bien aimé qu'elle soit émue de s'allier après le 7 octobre avec des gens qui, apparemment, avaient assez peu de considération pour le pogrom qui venait de se passer. En Israël. J'aurais bien aimé qu'elle soit émue de voir des CRS en feu à Sainte-Soline ou à Notre-Dame-des-Landes. Et j'aurais bien aimé aussi, surtout, qu'elle réalise qu'il y a dans le projet de l'écologie politique aujourd'hui un certain nombre d'outrances et de positions, d'ailleurs, qui n'ont rien à voir avec le climat, qui font que les électeurs ne sont pas massivement tournés vers elle. Les leçons de Marine Tondelier, alors que la représentativité n'est pas non plus extrêmement massive, me laissent un peu de marbre.